Bonjour à vous tous et bienvenue au Parlement européen. Je suis heureuse de vous accueillir ici avec ma collègue Marie-Christine Vergia. Vous êtes dans un endroit tout à fait important pour les matières que votre Jungle Tour a tenté de et bien réussi d'ailleurs, si j'en vois les retombées médiatiques. À mettre dans le débat public les questions de l'accueil des migrants sur le territoire européen. Vous allez en parler vous-même, mais je demandais avant que cette réunion commence le parcours que vous aviez fait avec cette Jungle Tour. Et donc vous avez eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'interlocuteurs, qu'ils soient élus, habitants, associations et évidemment migrants eux-mêmes. Nous sommes friands de vous écouter. Le débat que nous portons ici sur les politiques d'asile et d'immigration au sein de la commission Libé sont toujours des débats qui sont très disputés politiquement, disputés au sein de ce Parlement, et puis également parce que toutes ces matières sont maintenant en codécision, âprement négociées avec le Conseil. Le Conseil représentant les États membres a toujours des approches, quels que soient les pays, j'allais dire, avec quelques nuances près, bien entendu, mais ont en général des approches extrêmement restrictives et très peu ouvertes à l'amélioration, que ce soit celle des conditions d'accueil des migrants, que ce soit celle des procédures par lesquels les migrants peuvent accéder, par exemple, à la demande d'asile et à l'octroi d'un stagiaire, ou quel que soit ce qu'on appelle la directive qualification, c'est-à-dire les motivations de la délivrance de ce statut. Il faut se battre toujours sur chacun des points, et Marie-Christine Vergia, qui, comme moi, siège à la commission Libé, le sait bien. La plupart de ces directives sont aujourd'hui d'ailleurs plutôt en stand-by parce que nous n'arrivons que très difficilement à faire évoluer le Conseil et même à lui faire faire son travail, c'est-à-dire à donner une position commune qu'ils ont un peu de difficulté en général à trouver. Tout à l'heure, par exemple, si ça vous intéresse, puisqu'on est réunis ici pendant une heure et après nous allons aller en commission Libé, nous allons par exemple voter sur le compromis qui a été négocié avec le Conseil sur l'agence Frontex, qui est une agence de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, qui va se voir, à la demande générale des États membres, renforcée dans ses prérogatives, avec toujours un flou assez artistique sur les responsabilités en cas de violation des droits de l'homme. Et puis également, ça a été aussi un travail extrêmement long et fastidieux pour aboutir à des organes chargés du droit de l'homme, mais nous n'avons pas réussi à faire en sorte que ces nouveaux organes de l'agence Frontex, notamment un conseil consultatif sur les droits de l'homme et puis également un officier droit de l'homme, eh bien, présentent un caractère d'indépendance qui garantisse la fiabilité des mécanismes qui pourraient enregistrer et documenter les violations et en tirer toutes les conséquences en termes de responsabilité, de réparation pour les victimes. Donc voilà, je vous raconte tout ça pour vous dire que, c'est tout à fait judicieux que vous ayez eu cette idée de venir ici, au cœur de l'endroit où se décident ces politiques d'asile et d'immigration, et que, deux, l'énergie que vous avez pu développer et aussi diffuser, et aussi votre propre énergie renforcée, est bien utile pour faire avancer l'Union européenne sur ces questions. Maintenant, je voudrais vous inviter... D'abord, inviter Marie-Christine à vous dire un mot, maintenant ou après, comme elle le souhaite. Elle fait comme elle veut. Et puis vous inviter à présenter à la fois votre initiative et puis peut-être, non pas les conclusions, parce que je pense que vous aurez besoin certainement de rencontres ultérieures après cette Jungle Tour, mais peut-être nous faire entendre quelle est la teneur des discussions que vous avez pu avoir dans les différents lieux avec vos interlocuteurs. Et Marie-Christine et moi tâcherons d'en faire le meilleur usage pour enrichir nos arguments dans ce Parlement européen pour améliorer la situation des migrants. Voilà, je ne sais pas comment vous avez prévu de vous organiser pour la prise de parole, mais c'est... Dites-moi, Marie-Christine.
Mais je vais juste dire un mot pour me présenter, parce qu'on est dans la salle des Verts. Donc moi, je ne suis pas membre des Verts, je suis à la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. On a l'habitude, Hélène et moi, de travailler régulièrement sur ces sujets-là et d'avoir des prises de position relativement communes, si je puis dire. Et c'est vrai que la façon dont les choses évoluent aujourd'hui au sein des institutions européennes est assez inquiétante. Parce que on a beaucoup de mal à faire avancer tous les sujets qui concernent la situation des migrants sur le territoire de l'Union européenne. Parce que les États membres se replient sur leurs propres compétences. Et autant on voit l'Union et la Commission avancer sur certains sujets, au-delà même de ce que demandent les États, et en tout cas les États suivent, autant en matière migratoire, on est sur un repli. On a eu une négociation difficile sur Schengen la semaine dernière. Parce que moi, je considère qu'il y a un leurre actuellement avec la question de les frontières à l'intérieur de l'Europe. Parce que pendant qu'on a ce débat sur les frontières à l'intérieur de l'Europe, ça évite d'avoir celui sur ce qui se passe sur le pourtour de l'Union européenne. Et que là, on voit bien que ça régresse de toutes parts et qu'on ferme de partout les frontières. Et je pense que là aussi, on sera d'accord avec Hélène, que ce n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux de ce que nous font espérer les révolutions arabes. On aurait d'autres discours à tenir. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc, effectivement, ce que je voulais dire, qu'on est parfaitement d'accord sur beaucoup, beaucoup de sujets, qu'on est, je pense, d'abord et avant tout là pour vous entendre.
Eh bien, je voudrais
merci
d'abord vous...
Marie-Christine, je voudrais signaler qu'il y a de la traduction en anglais. D'ailleurs, je vois au moins une personne qui a un casque sur les oreilles. Ça veut dire peut-être que dans la salle, il peut y avoir, parce que nous avons l'air assez isolés, Marie-Christine et moi, alors même que les invitations sont parties dans tous les groupes politiques de cette assemblée. Il y a certainement des représentants des bureaux des députés, peut-être, s'ils pouvaient se manifester et dire éventuellement, voilà, bonjour, quel député il représente. Ça peut être éclairant et également pour nos invités. Je t'en prie, Claudine.
Ou peut-être si monsieur se présente.
Non, je représente simplement Nathalie Grisbeck du groupe ADLE. Voilà.
Bien, je voulais d'abord remercier les députés qui, en particulier Hélène Claude, qui a permis cette rencontre au Parlement européen, donc au nom de tous les organisateurs, participants, associations d'accueil du Jungle Tour. Et je vais donner la parole à Yves, qui a effectivement participé aux étapes à vélo, ainsi que Stéphane, le plus jeune du groupe, qui vont vous faire une petite synthèse de cette expérience et des ressentis dans un premier temps. Merci.
Stéphane, peut-être tu commences.
Alors, durant 12 jours, le Jungle Tour a parcouru plusieurs centaines de kilomètres et passé par plusieurs villes où quelques regroupements de migrants sont présents, comme à Calais, Nouronfonte, Angres, Grande-Synthe, Ostende. Les participants du Jungle Tour, dont une partie n'avait jamais vu ce monde, cette dure réalité, ont été surpris, ont été émus d'avoir été au contact de ces hommes oubliés par une majorité de la population. Nous avons parlé avec les migrants et la chose qui revient toujours, c'est les pressions policières. Les migrants expliquent donc la difficile vie face à laquelle ils sont confrontés. La violence policière, torture exercée par les représentants de l'État est insupportable pour les migrants. Les forces de l'ordre utilisent des chiens pour poursuivre ces exilés. La police peut aussi gazer les migrants, asperger de gaz lacrymogène, la nourriture, les sacs de couchage et même l'eau, ressources indispensables pour essayer de survivre dans un pays des droits de l'homme et des citoyens. Aussi, la police peut aussi détruire le seul moyen de communication avec le monde extérieur, avec leur famille par exemple. Ce sont les GSM, les portables, les téléphones portables. Les policiers enlèvent la carte SIM ou jettent à l'eau les portables.
Oui, voilà, donc on a parcouru effectivement quelques centaines de kilomètres. Alors, on a croisé chez les migrants, les exilés, enfin bon. Donc, beaucoup de gens qui parlent de leurs persécutions. Alors, ces persécutions, donc, c'est déjà sur les grosses jungles, hein, à Calais, et, enfin, sur les gros lieux, à Calais et à Ostende. Aucun endroit pour se poser. Des violences policières sont discontinuées. Ces violences policières, c'est des arrestations de la même personne plusieurs fois par jour, jusqu'à 6 fois par jour, avec donc arrestation, menottes, prise d'empreintes, et on relâche. Et la même, un jeune qu'on a rencontré nous a raconté avoir été arrêté comme ça par le même policier, 6 fois dans la même journée. Ce qui me paraît très grave aussi, c'est l'impossibilité de dormir. C'est-à-dire que les gens se couchent, se cachent, essaient à la tombée du soir, nous disent le témoignage, de se rendre invisibles, mais se font réveiller. Dès qu'ils s'endorment, ils sont réveillés, ils sont chassés. Utilisation de chiens, ça, on a des témoignages très précis, notamment à Ostende, et des gens qui ont été mordus par des chiens, dans les jardins publics, dans tous les espaces verts. Du gazage, évidemment. Donc, gazage, c'est lacrymogène. Lacrymogène sur la nourriture, les couvertures, sur tout le monde, hein. Enfin, sur tout ce qui peut servir. On a rencontré des gens qui étaient malades, et des maladies assez graves, comme des diabétiques insulino-dépendants, qui ont eu leur insuline détruite, et qui sont dans des conditions où, de toute façon, on ne peut pas se piquer régulièrement. Et pour un diabétique, il est important de pouvoir prendre son insuline régulièrement et de manger très régulièrement. Si on ne mange pas régulièrement, on déséquilibre le diabète et ça peut être assez rapidement la mort. Donc on a rencontré 2 diabétiques qui ont eu leur insuline détruite et qui de toute façon ne peuvent pas se piquer comme il faut. On a rencontré un jeune homme schizophrène qui avait sa carte médicale d'urgence, un belge, c'était à Ostende. Ses médicaments ont été détruits et les flics ont dit, enfin la police pardon, a dit « mais vous n'êtes pas malade » et on détruit la carte. Donc voilà, quelques exemples des persécutions qu'on a pu voir. Alors parmi ces personnes, on a rencontré plusieurs nationalités, donc des Afghans, des Algériens, des Iraniens, des Soudanais, des Érythréens. C'est des Vietnamiens, j'oublie. Alors parmi eux, beaucoup sont demandeurs d'asile, mais pas tous. Ça peut-être les associations qui travaillent là-dessus expliqueront pourquoi. Mais on a rencontré quand même beaucoup de gens qui sont des réfugiés, donc qui sont des demandeurs d'asile, notamment à Calais, qui devraient être protégés par la loi, notamment hébergés, qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas et qui sont victimes des persécutions dont on a dit là. Parmi les témoignages qu'on a, il y a évidemment la destruction des papiers, que j'ai oublié de mentionner, ce qui est extrêmement gênant. Et ça, c'est, je le dis là, on en a parlé, ça a été documenté par ailleurs. Donc des gens qui font, on a rencontré, c'est aussi intéressant, c'est des gens qui font de multiples allers-retours. Alors allers-retours, d'une part entre donc à Calais. Calais, c'est un lieu de passage. Donc ça, j'apprends rien à personne. Des gens qui viennent de Londres. On a rencontré des gens qui ont passé plusieurs années à Londres en situation régulière, le temps que leur demande d'asile soit examinée. La demande d'asile, donc, était déjà passée par Calais il y a quelques années. La demande d'asile finie, l'instruction de la demande d'asile finie, c'est négatif. Ils sont renvoyés à Kaboul et ils reviennent. Donc c'est leur deuxième, pour une personne qu'on a rencontrée, c'est un deuxième passage à Calais. On a rencontré plein de gens aussi qui, eux, sont dans des situations de véritables. Enfin, moi, ça me fait penser à une boule de billard, hein, qui arrivent, des Érythréens qui arrivent par l'Italie, qui viennent en France, qui sont renvoyés en Italie, qui essaient de demander l'asile en Suède, mais on les renvoie en France. Enfin, c'est des choses qui sont peut-être compréhensibles. En tout cas, eux ne comprennent pas. Moi non plus, je ne comprends pas comment des gens qui, sans aucune raison, se retrouvent, sont renvoyés en France. Enfin, ça fait un système de boules de billard et qui passent plusieurs fois par Calais ou par Ostende. On a rencontré donc des gens, ouais, c'est ça. Donc, alors, beaucoup de gens passent donc par l'Italie et par d'autres pays. Oui, donc tout ça, ça montre bien que cette fameuse théorie de l'appel d'air, ben, ça ne fonctionne pas, puisqu'on fait tout finalement pour faire un repoussoir, y compris des persécutions et de la torture. Donc les gens ben, continuent à venir et pour essayer de passer. Et cette théorie de repoussoir et d'appel d'air, on voit très bien ce qu'on a vu, montre peut-être de façon empirique, mais que ça ne marche pas. Alors, des choses qui sont aussi extrêmement intéressantes qu'on a rencontrées, c'est des solidarités. Alors, on a eu tout autour du tour, hein, donc on est passé en vélo, en distribuant des tracts, hein, deux réactions négatives dans les distributions de tracts. Et pour moi, j'étais très surpris. Beaucoup de réactions simplement assez froides et simplement polies, mais la plupart des réactions quand même au moins sympathiques. Beaucoup de gens qui ressentent beaucoup d'empathie vis-à-vis de ceux qu'on appelle les migrants, donc de la compassion, et qui nous ont réservé un accueil vraiment sympa, et, voire extrêmement sympathique. Donc ils nous disent, ah oui, les pauvres, ou des gens qui s'engagent. Des gens qui s'engagent, donc soit individuellement, qui vont aller, qui nous disent, on discute comme ça, qui n'appartiennent à aucune association, mais qui vont déposer du savon, qui vont déposer du lait, qui vont... Chose aussi très intéressante, des gens très intéressants qu'on a rencontrés, c'était donc à Ostende des camionneurs russes qui allaient en Angleterre et qui eux donc à la fois ressentent une grande solidarité vis-à-vis des gens qui essaient de monter clandestinement dans leur camion, mais qui sont extrêmement ennuyés parce que ils sont pris entre deux feux, donc entre cette solidarité et faire passer les gens, les risques que ça représente pour la cargaison et les risques de se faire attraper. Et donc c'est vraiment des... Donc en discutant avec... Oui, donc on a aussi rencontré donc des chauffeurs qui seront... Donc ils ne sont évidemment pas des passeurs, mais ça c'était très émouvant et très intéressant. On a rencontré des associations, donc la plupart, enfin un certain nombre sont présents ici, des élus, des structures. Alors je dis structures parce qu'il y a des associations de fait, mais qui ne sont pas des associations montées, qui n'ont pas d'existence légale, qui s'engagent, et qui s'engagent de façon tout à fait, enfin pour moi tout à fait remarquable, qui n'hésitent pas, qui y vont, et qui font un boulot fabuleux au niveau donc, de l'hébergement. On a des endroits où on pourrait quasiment parler de jungle municipale, mais ça c'est des petites jungles, alors j'insiste sur le quasiment, hein. Donc des associations qui s'engagent donc sur l'hébergement, sur fournir un espace, ça c'est évidemment en dehors de Calais et de Ostende, parce que là, il n'y a rien. Il y a beaucoup de gens qui interviennent énormément, mais des associations qui s'engagent au niveau du suivi médical, hein, parce que c'est un gros problème, le suivi médical. Là, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on a vu les violences policières, c'est les chiens qui mordent, c'est des coups de matraque, on a vu des gens qui étaient mais complètement cabossés. Je veux dire qu'ils nous montraient à Ostende les blessures qu'ils avaient reçues hier, les blessures qu'ils avaient reçues avant-hier. Ah ben je peux vous montrer ça c'était, et à chaque fois c'était à quel moment ça s'était produit. Des gens qui sont blessés parce qu'ils tombent d'un camion. Des gens qui sont et puis des gens qui pètent un plomb. On a rencontré quelqu'un qui était schizophrène. Donc il y a des associations et ça donc on en parlera. On a rencontré qui s'occupe du suivi médical et de la convalescence des migrants. On a rencontré des élus et des élus qui n'hésitent pas à s'engager et qui vont très loin. On a aussi rencontré des gens donc, qui s'engagent et qui n'osent pas en parler pour pérenniser leur jungle, pour dire voilà, nous, on le fait, on n'en parle surtout pas, n'en parlez pas, dites pas qu'on le fait. Donc je ne dirai pas de qui il s'agit parce qu'ils ne veulent pas qu'on le dise. On le fait parce que si on le dit, on ne pourra pas pérenniser. Bon, je suis pas forcément. Mon opinion n'a pas d'importance maintenant ici. Alors, chose très intéressante, c'est qu'on a voyagé avec un studio mobile de production de radio, hein, qui était plié, donc qui appartient à une petite radio parisienne qui s'appelle RPP. Et ce studio, on a pu l'installer dans des endroits qui étaient tout à fait surprenants. Donc, sur la place à Angres, en face de la mairie, on a fait une émission en public, en plein air. Et avec, bon, on peut l'écouter, elle est sur notre audioblog, hein, On a fait la même chose. Donc, ce studio, on a pu l'installer donc, dans plusieurs endroits. Et à chaque fois, ça a été des accueils vraiment sympas. Et bon, des discussions qui, vraiment intéressantes qui sont sur la solidarité. Voilà. Donc, on a recueilli beaucoup de témoignages. Ces témoignages, ils ont été donnés, un certain nombre d'entre eux ont été transmis. Tous n'ont pas été transmis pour une raison très simple, c'est que recueillir, écrire, pédaler, enregistrer, monter, eh ben, je veux dire, ça va, les nuits sont très courtes, mais malheureusement, pas suffisamment, elles sont quand même. Donc, vous avez quelques témoignages, il y en a d'autres qui sont sûrs, qui n'ont pas encore été... que vous n'avez pas encore eu, mais qui sont ou qui seront très bientôt disponibles, et sur le blog du Juggle Tour, donc tu rappelleras l'adresse, mais je crois que tout le monde ici, et sur l'audioblog, hein, puisque avec tous les sons qu'on a pris avec le studio radio, donc on a créé un audioblog, hein, ça s'appelle l'écho des jungles, et donc tous les témoignages seront disponibles, enfin sont pour un certain nombre, et seront pour d'autres disponibles, sur cet audioblog, hein, c'est... Ah bon, on a le lien sur le blog.
C'était là.
À partir d'ici. Et donc, ces témoignages sont diffusés par plusieurs radios associatives, et en Belgique, et en France, et j'espère ailleurs. Voilà, donc si tu as des choses à rajouter.
Merci Yves.
Merci Yves. Nous allons maintenant donner la parole aux différentes associations qui sont sur le terrain et la tête dans le guidon tous les jours et qui font un travail absolument remarquable. Donc je vais d'abord demander à Elisabeth Fichet du Grand Mi de se présenter, d'exprimer un peu toutes les préoccupations de son association. Merci.
Voilà, donc Elisabeth Fichet, je fais partie de cette association qui... s'appelle le Grand Mi, c'est le migrant en verlan. Donc, on a commencé par aider les associations calaisiennes, surtout à travers la collecte, le tri de vêtements et l'aide aux vestiaires. Et puis, après que la jungle ait été fermée, que des gens se soient trouvés au centre de rétention à Léquin, on a découvert de beaucoup plus près les problèmes d'hébergement. Parce que les gens étaient relâchés et certains ne voulaient pas repartir à Calais. Bon, voilà. Donc, je voulais juste dire ici quelques mots sur ce problème de plus en plus crucial de la précarisation de l'hébergement d'urgence, ce qui est quand même un des points centraux, parce que quand quelqu'un passe sa journée à essayer de savoir où il va dormir, il ne peut rien faire d'autre. Alors, ça se joue à l'échelle nationale, mais ça touche de très près chacune des villes où sont des demandeurs d'asile. On sait qu'il n'y a pas de place pour eux dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les CADA, et donc ils dépendent de ce fameux 115, bon, que tout le monde connaît aussi, pour les demandes journalières de nuit et de jour. Alors à Lille, puisque c'est dans la métropole que j'habite, au mois de juin, donc en ce moment, il y a 800 personnes dans la rue sans hébergement. Les demandes au 115 se heurtent presque systématiquement à un refus, alors que l'année dernière, à pareille époque, ce n'était pas fameux, mais quand même, on trouvait un hébergement une nuit sur trois. Là, en ce moment, c'est plus du tout ça. Alors, les prévisions des plans départementaux accueil, hébergement, insertion sont très inquiétants. Hein, il vient d'y avoir d'ailleurs des protestations organisées autour de l'UNIOPS dans des villes, enfin à Lille et ailleurs. Il y a 2100 personnes dans la région qui risquent de ne plus être accompagnées ni de trouver de place à partir de cet hiver. Et il y a une centaine de salariés de l'urgence sociale qui risquent le licenciement. Quand on sait qu'il y avait déjà peu de monde pour essayer d'accompagner ces gens, c'est dramatique. Et des centres d'accueil sont menacés de fermeture dès octobre. Magdala nous l'a dit, par exemple, à Lille. Parce que les subventions sont très fortement diminuées. Et il y a eu d'ailleurs une manifestation à Paris samedi dernier sur le même thème. Alors dans ce contexte, les demandeurs d'asile ou ceux qui sont en recours à la CNDA sont encore plus vulnérables que les autres personnes précaires parce qu'on le sait, il y a des quotas plus ou moins officiels dans les structures d'hébergement, ne serait-ce que parce que ces gens-là, enfin les migrants, valent moins en nuit d'hébergement que d'autres. Et donc les structures n'ont pas, j'allais dire entre guillemets, intérêt, si elles veulent garder de l'argent pour fonctionner, à prendre ceux qui ne rapportent pratiquement rien. Donc, par exemple, la Halle Saint-Jean à Lille, bon, qui est donc une association d'Emmaüs, qui a refusé de faire du tri, est victime complètement aujourd'hui du fait qu'elle paie le prix fort, si on veut faire de l'humour. Donc, pour nous, je terminerai là-dessus, les associations militantes d'aide aux réfugiés et qui sont préoccupées par ce problème-là, on sait qu'on va être dans une situation extrêmement tendue dans les mois qui viennent. Voilà.
Merci Elisabeth. Claire de Flandre Terre Solidaire, je te donne la parole. Ah, allez.
Alors nous sommes à Bailleul, un endroit où il n'y a pas de migrants, où il n'y a pas d'aire d'autoroute adaptée au passage dans les camions, mais nous avons une association qui regroupe 110 adhérents, une cinquantaine de bénévoles, et donc on a plusieurs pôles d'action. On a un pôle d'action à Calais, où tous les 15 jours, on va aider l'association Salam à préparer et distribuer le repas. On a un pôle d'action qui est la sensibilisation et l'information auprès des populations au sujet des migrations internationales, et donc on organise des soirées, des débats, enfin différents événements, et on a Flandre Terre Solidaire, excusez-moi. Et il y a un de nos bénévoles qui a laissé sa caméra filmer des migrants sur le camp, dont je vais parler après, qui a fait un film qui dure 1h10, qui a été primé au Festival de la Charnière par la CRAV là dernièrement. Et on a un troisième pôle, c'est que pendant 6 mois l'hiver, on ouvre un camp pour les migrants malades, blessés, épuisés physiquement ou psychologiquement. Et c'est peut-être sur ce point-là que je voudrais attirer l'attention sur le problème des personnes qui sortent de l'hôpital parce qu'ils ont le ventre ouvert, ils sortent au bout de 5 jours, comme chez nous, hein, comme les Français, mais ils se retrouvent à la rue, dehors, en plein hiver. Les médecins nous disent que ce n'est pas bon du tout pour la cicatrisation de se retrouver dans la rue, avec éventuellement, comme on le disait, des poursuites, des besoins de faire des kilomètres et des kilomètres pour chercher ce qui est indispensable à la vie. On a des personnes blessées, bon, qui passent à l'hôpital. En général, suivant les hôpitaux, la passe prend à peu près en charge, mais se décharge aussi très rapidement, et les personnes se retrouvent à la rue sans aucun hébergement qui correspondrait à leur état de santé. On reçoit aussi beaucoup de personnes qui sont épuisées physiquement et psychologiquement, et vraiment un épuisement très important qui se traduit généralement par une période de déprime. Quand ils arrivent chez nous, ils ont le temps de penser parce que chez nous, on leur apporte ce dont ils ont besoin pour vivre. La douche, c'est en face, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres. Et tout d'un coup, ils ont le temps de repenser à ce qu'ils ont vécu dans leur pays, aux horreurs qu'ils ont vécues le long de la route et à leur situation en France. Et donc, c'est une période où, en général, pendant une petite semaine, ils sont refermes sur eux-mêmes, ils sont complètement repliés sur eux. Et il faut vraiment l'énergie des bénévoles qui leur donnent des conditions un petit peu familiales pour qu'ils reprennent confiance, qu'ils reprennent leur vie en main et qu'ils se repositionnent. Mais ça montre vraiment l'état psychologique dans lequel ils sont et l'état d'épuisement. Il y a des gens qui nous arrivent, qui n'ont pas l'air si mal que ça, mais qui n'ont pas cette de tension. Et donc ça, c'est quand même particulièrement inquiétant. Il y a aussi tout le problème des personnes à la rue, c'est-à-dire les problèmes de maladies contagieuses, la gale, la tuberculose. On a reçu un tuberculeux qui nous a été envoyé par l'hôpital. L'hôpital nous disait non, il n'y a pas de danger, parce que je dis, bon, on a quand même des bénévoles. On est bénévoles, on donne de soi, mais ce n'est quand même pas pour se retrouver malade, quoi. Donc il y a un minimum de protection à avoir. C'était garanti, ce migrant n'était pas contagieux. Et 36 heures après, on m'a demandé de le ramener de toute urgence à Calais parce qu'il était contagieux. Donc voilà, je dis, il y a quelque chose là qui fait qu'il y a une protection, à mon avis, élémentaire, parce que ça a fait en sorte qu'il a fallu retrouver tous les bénévoles qui ont été en contact avec lui pendant ces 36 heures, mettre en route tout le système de prévention du Conseil général, enfin, quel coup derrière aussi. Je pense qu'il faut voir le tout dans un ensemble. Et il y a des choses où on veut faire des économies qui sont de bout de chandelle et où finalement derrière, ça amène et des tracasseries et de l'inquiétude, parce que forcément, quand on dit aux bénévoles, vous risquez la tuberculose, ce n'est pas excellent non plus. Donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles je voulais attirer l'attention. Aussi l'attention des familles qui ont des enfants. On a reçu plusieurs familles avec des petits-enfants de 4 ans, 4 ans, 5 ans. Une famille avec un enfant de 4 ans, 5 ans, un bébé de 8 jours. Le bébé était sorti au bout de 5 jours de la maternité. Les associations avaient payé 3 jours d'hôtel. Le bébé se retrouvait à la rue à 8 jours. Est-ce qu'à 8 jours, c'est normal d'être à la rue? Ces gens étaient en France. Bon, comme elle avait accouché en France, ils ne se voyaient pas repasser en Angleterre pour aller demander l'asile là-bas. Ils ont donc décidé de demander l'asile en France. Et bien sûr, ils avaient leurs empreintes en Italie. Et on a eu une chance extrême. Enfin, j'ai négocié un peu avec l'employé de sous-préfecture en disant « Mais vous allez renvoyer en Italie un bébé de cet âge-là. Il va refaire le voyage en Italie. » Et donc, elle a pris sur elle de téléphoner. Ils ont accepté la demande d'asile en France. Mais ce n'est pas automatique. Suivant la personne sur laquelle on tombe, ce bébé aurait pu être obligé de refaire le trajet vers l'Italie. Enfin, voilà, enfin, moi, c'est pas médical, ça, mais c'est sanitaire. Et donc, ce sont des situations où il me semble qu'il faut être particulièrement attentif parce que, bon, un bébé de 8 jours, c'est quand même fragile. Enfin, je sais pas, c'est un minimum d'humanité, ça. Même si tout le reste est plus que nécessaire, à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose qui est un vrai manque où les bébés sortent de la maternité et on ne fait pas plus, ils sont à la rue. Il y a des bébés qui ont vécu sous des arbustes pendant des mois, quoi. Voilà, donc c'est sur ces choses-là que moi, je voulais attirer l'attention.
Merci, Claire. Philippe, si tu veux bien nous parler de Calais. Merci.
Quand le Jungle Tour est arrivé à Calais, en fait, on s'est trouvé dans un contexte particulièrement tendu et on ne savait pas trop, en fait, dans l'endroit dans lequel on allait pouvoir rencontrer les exilés. À peu près une dizaine de jours avant, le principal squat avait été évacué. Les militants qui étaient présents ont demandé à la police la décision de jugement ou un quelconque papier qui pouvait justifier cette évacuation, mais ne l'ont pas obtenu, ce qui est une situation à peu près systématique. Ce squat accueillait entre 90 et 120 demandeurs d'asile, selon France Terre d'Asile, qui suit maintenant à Calais la plupart des demandeurs d'asile, donc des gens qui se retrouvaient, qui n'avaient rien à faire là, puisque l'État était censé les prendre en charge. Et tout le monde s'est trouvé dispersé à droite à gauche, avec une grosse pression policière, c'est-à-dire, au fur et à mesure que les gens essayaient de se réinstaller dans un bâtiment, ils étaient chassés. Je pense qu'une bonne partie de ces demandeurs d'asile ne mèneront pas leur procédure à son terme, puisque ces gens-là, on ne les voit plus, on ne sait plus où ils sont. S'ils sont encore à Calais, ils se cachent, et s'ils ne sont plus à Calais, je ne sais pas quel lien ils vont garder avec l'association qui les accompagnait. À peu près au même moment, le tout nouveau défenseur des droits a été saisi d'un rapport sur les violences policières fait à partir de 2 ans de travail par le mouvement No Border et qui était soutenu par une vingtaine d'associations. C'est à la fois une reconnaissance très positive parce que on nous a promis une enquête. C'est un test aussi pour l'indépendance politique du défenseur des droits parce que c'est pas le dossier le plus facile qu'il aura à traiter dans le cadre de ses fonctions. La concomitance des deux nous montre que, a priori, la mairie de Calais et la préfecture n'ont pas une estime spécialement débordante pour l'indépendance du défenseur des droits. On espère qu'il y aura mieux et surtout ce rapport, maintenant qu'il a été fait, va être réactualisé et on espère aussi saisir d'autres instances ce qui nous paraît nécessaire pour continuer à faire pression dans ce domaine. Le contre-coup, c'est aussi des militants qui passent en procès. 3 militants No Border passés en procès aujourd'hui. J'ai pas encore le résultat. De toute façon, il y aura probablement un délibéré. Pour violence en réunion, c'est pas le premier procès. Il y en a eu 2 en juin, avec toujours comme simple pièce d'accusation la déclaration des policiers. Pas d'arrêt de travail ou de choses comme ça qui viennent montrer qu'il y a eu des lésions physiques ou quoi que ce soit, simplement. Voilà. Que dire si sur le climat qui règne à Calais, on a aussi le contre-coup du discours gouvernemental qui est que l'hostilité et le racisme se cachent de moins en moins, alors que les gens qui sont solidaires, soit par modestie, soit parce qu'ils ont appris après Sangatte qu'il fallait pas trop montrer quand on aide, eux sont plutôt discrets, plutôt cachés, et c'est l'un des phénomènes inquiétants aussi, pas qu'à Calais d'ailleurs, c'est beaucoup plus inquiétant dans d'autres endroits comme la Flandre, mais comme la Flandre française, mais qui nous inquiète aussi.
Merci Philippe. Alors il nous reste plus beaucoup de temps. Alors je vais vous demander d'être vraiment le plus concis possible. Parmi les autres associations qui sont là, quelles sont celles qui souhaitent ajouter quelque chose à ce qui a été dit? Je ne voudrais pas les frustrer parce que tout le monde a beaucoup de choses à dire. Je suis un petit peu embêtée de décider qui continue. Allez-y. Allez-y.
Je vais faire vite.
Merci Lily.
Moi j'avais prévu de donner un point de vue sur l'errance, mais des tas de choses ont déjà été dites sur l'errance, l'incurie du système d'accueil dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais bon, qui est valable aussi, je pense, pour la France, les craintes des associations, des suppressions de subventions, donc pour l'hébergement d'urgence, mais aussi les défaillances du système des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Tout ça, du point de vue d'un petit camp, d'une trentaine de personnes dans un petit village donc, du Pas-de-Calais, où la situation est un peu différente de Calais ou de Dunkerque, puisqu'il y a une relative tolérance des autorités locales et en tout cas un soutien de la municipalité, ce qui a permis la stabilisation des abris, donc la baisse ou la quasi-disparition des pathologies dermatologiques qu'on voit en fait généralisées, qui a aussi permis la disparition de tous les traumas, mais aussi les violences intracommunautaires et policières. Mais par contre qui n'a pas permis à l'association donc, en présence, Terre d'Errance, de pouvoir réussir à sortir les gens de l'errance dont il va parler, du fait de Dublin, et non plus de les sortir en fait, de la jungle, justement à cause des blocages qui sont dus à des directives et des règlements européens qui en fait se mêlent à des systèmes nationaux. C'est-à-dire que quand on rencontre les autorités régionales ou même nationales, généralement, elle botte en touche en disant que c'est la faute à l'Europe, que le non-accès des personnes migrantes auxquelles on a affaire, donc au droit d'asile, est dû au règlement Dublin 2. Mais également, donc, quand on parle de l'Europe, on nous dit souvent que les situations dramatiques et le nouvel exil des demandeurs d'asile qui étaient présents en Grèce, en Italie et maintenant en France est dû aussi aux situations nationales. Donc nous, on se trouve coincés entre les deux. Et le constat, c'est que donc après 4 ans d'observation sur un petit camp, on a vu parfois la même personne passer 5 fois et n'avoir plus aucune perspective d'avenir ou de stabilisation normale en Europe et donc développer donc aucun moyen de subsistance et développer des stratégies de survie à court terme, donc c'est-à-dire aller en Angleterre par défaut. On a plus l'impression plutôt que l'Angleterre soit attractive, mais plutôt qu'elle est le déversoir en fait, de l'espace Schengen qui ne prend pas en charge les demandeurs d'asile et les réfugiés, puisque pour la communauté qui est présente à nos rencontres, ce sont des Érythréens, la plupart ont obtenu des statuts en Italie, mais vont quand même en Angleterre. Et surtout, on voit donc ces personnes-là qui ont entre 70 et 90% de chances d'obtenir l'asile partout où elles le demandent en Europe, ou en tout cas ne rentreront pas dans leur pays, de venir alimenter en fait le système et les réseaux, puisque pour subvenir à leurs besoins, devenir passeurs et être le plus souvent incarcérés et condamnés. Sur nos rencontres, en 6 mois, on en est à la 11e incarcération, entre 1 mois et 10 mois, pour un groupe de 30 personnes, donc une pression policière qui s'accrue, et sur 6 mois. Sur 6 mois. Et pour des gens qui avaient vocation à s'intégrer par ailleurs, mais pour qui aucune perspective d'avenir n'est envisageable maintenant. Donc on est relativement inquiet là-dessus et devant notre impuissance à pouvoir les prendre en charge, puisque tout pèse sur nos épaules, de l'hébergement, de l'accompagnement social, de l'intégration, y compris des réfugiés. Et donc on est inquiet sur cette errance. Le règlement Dublin 2 fêtera bientôt ses 10 ans, d'ici 2 ans, et on aimerait voir un bilan, en fait, que les États s'expliquent clairement sur le nombre de réadmissions pour voir quelle a été l'utilité et combien de milliers de personnes ont été jetées sur les routes entre les pays du Sud ou maintenant de l'Est, la Scandinavie et l'Angleterre.
Je travaille à une association ici en centre-ville à Bruxelles, donc je vais peut-être juste prendre deux minutes la parole pour parler de la situation ici à Bruxelles, qui est quand même assez qu'on peut voir aussi dans d'autres pays. Donc c'est une association qui veut donner la parole aux pauvres, et donc comme on est dans un quartier derrière le petit château qui est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il y a pas mal de sans-papiers ou de personnes en séjour irrégulier qui traînent dans la rue là-bas pour trouver un boulot à des salaires complètement scandaleux. Ils sont exploités énormément. Et donc nous, on crée avec eux des projets où ils puissent prendre la parole, où ils puissent eux-mêmes réfléchir sur la situation. Et on essaye de faire un travail de consolidation politique, donc à long terme plutôt, que eux-mêmes essayent de voir qu'est-ce qui est possible à long terme pour leur situation, quels interlocuteurs il faut aller voir, quelle politique il faut essayer de discuter. Donc on aurait bien aimé les emmener ici, mais ce n'est pas très possible car il faut une carte d'identité pour rentrer. Mais donc on a aussi un collectif de sans-papiers, donc de personnes qui se sont organisées en collectif, qui eux-mêmes essayent de continuer cette lutte, qui quand même depuis quelques mois à Bruxelles commence à s'accroître. Il y a plusieurs occupations de personnes sans-papiers. Il y a les militants qui de plus en plus s'organisent, donc on a quand même quelques points positifs en vue. Voilà, je vais peut-être être très très brève et peut-être terminer juste avec deux témoignages pour que je puisse quand même un peu passer leurs paroles, qui parlent surtout sur les violences faites lors des expulsions. Donc c'est un danger, un risque que courent toutes ces personnes quotidiennement, qui leur limite vraiment à avoir une vie quotidienne normale. Et tous ces témoignages sont rassemblés sur un site Getting the Voice Out. wordpress.com. Donc on fait passer un numéro de téléphone dans les centres fermés. Et on essaye de les téléphoner pour avoir les vrais témoignages de l'intérieur. Donc un premier témoignage est d'un homme libanais qui dit « Avant que je vous donne mon nom, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce gars qui a parlé à la presse il y a 3 jours de cela, en donnant son nom et son prénom. Il a été détenu en cellule d'isolation. » Donc si je vous donne mon identité, ils vont me traiter comme en enfer ici. Je ne peux pas vous donner mon nom, car ça me retombera dessus. C'est comme une prison ici. C'est horrible ici, je n'arrive pas à dormir la nuit. Ils viennent toutes les nuits pour nous surveiller, voir si nous dormons ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes en train de dormir et tout d'un coup, à 4h30 du matin, ils viennent frapper à la porte et demandent « Tout va bien? Vous n'avez besoin de rien ?» Ils font ça pour nous rendre fous, ils jouent avec nous. Je vais m'arrêter là parce que ça continue. Après, voilà, il y a l'histoire du matelas qu'on a entendue plusieurs fois. Donc, c'est une histoire qui a été à plusieurs reprises confirmée que ça se passe réellement. Lors de mes 2 dernières tentatives d'expulsion, j'en ai subi 7. Dans le fourgon qui me ramenait en cellule, ils m'ont couché sur le sol, ont écrasé un matelas sur moi et l'ont roué de coups de pied pendant un temps qui m'a paru infini. Le matelas ne diminue en rien la douleur ressentie, mais il permet d'éviter les traces de coups sur la peau. Par contre, ce degré de violence gratuite a laissé beaucoup de traces dans mon cœur. Voilà.
Merci Maïka. Donc c'était tu es de l'association Pigment, c'est ça, à Bruxelles, l'association néerlandaise à Bruxelles. Je propose de donner la parole à Alain Delame, Amnesty International, pour maintenant peut-être faire le lien avec toutes ces constatations et sur le terrain, voir un petit peu de quelle manière ces problèmes locaux sont aussi liés à la politique européenne.
Merci. La première chose qui me frappe quand j'entends les témoignages sur les violences policières, d'une part à Calais par exemple, et puis ici à Bruxelles, telles qu'elles viennent de nous être apportées, c'est que j'ai l'impression que Calais, c'est un centre de rétention à ciel ouvert, puisque on y pratique à peu près les mêmes choses, par exemple les réveils, cette forme particulière de torture qui consiste à réveiller les gens 3 ou 4 fois par nuit. Pour revenir aux propos que on m'a demandé de tenir, eh bien, c'est pour rappeler quand même qu'il existe des directives européennes. Alors, bien entendu, ces directives, on n'est pas forcément d'accord avec. On trouve toujours qu'elles seront trop restrictives, qu'elles ne vont pas assez dans le sens de l'intérêt de la protection, d'une protection digne des personnes exilées. Néanmoins, elles existent tout de même. Et par rapport à tout ce qui a été dit sur l'hébergement ou le non-hébergement des demandeurs d'asile, je voudrais simplement relire 2 ou 3 articles de la directive accueil. Article 13, règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile. Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. Lorsque le logement est fourni en nature, alors on voit bien ce n'est absolument pas le cas dans les situations qui nous ont été décrites, lorsque le logement est fourni en nature, il doit l'être sous une des formes suivantes, ou en les combinant, des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande d'asile, des centres d'hébergement, des maisons, des appartements, des hôtels privés, ou autres locaux adaptés. Alors bien évidemment, l'exemple de ce qui s'est passé lors de l'évacuation, la dernière évacuation lundi 27 juin d'un squat à Calais, c'est tout à fait un contre-exemple un exemple de non-application de cette directive accueil. Et comme l'a rappelé Philippe, la moitié à peu près, selon France Terre d'Asile, des personnes expulsées et qui en plus ont été victimes des violences dont on a parlé, à propos desquels, Hélène, tu as écrit hier à monsieur le préfet du Pas-de-Calais, en rappelant également le rapport de Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, quand il était venu à Calais il y a un an. La moitié donc de ces à peu près 200 personnes étaient demandeurs d'asile. Et évidemment, ce sont des situations que les militants et bénévoles associatifs, Lily, tu l'as indiqué aussi, rencontrent tout le temps, y compris d'ailleurs s'agissant de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié et qui vivent eux aussi ce type de clochardisation forcée. C'est une situation qui évidemment est contraire à toutes les exigences de dignité inscrites dans le droit international et en l'espèce aussi, surtout, au principe d'égalité d'accès au droit, c'est-à-dire au droit d'asile ici en Europe. Parce que la demande d'asile, on sait, elle est complexe. Elle exige du temps, elle exige des échanges avec les associations, avec les juristes. Il faut revenir sur les situations qui ont conduit à l'exil, sur tout le parcours depuis l'Iran, l'Afghanistan, etc., sur les violences qu'on a subies ou qu'on craint. Il faut mettre tout ça en discours, par écrit. Et c'est évidemment pas quand on dort sous un pont, au bord d'un canal, quand on est réveillé plusieurs fois par nuit, qu'on peut, dans la sérénité et dans des conditions dignes, arriver à achever à aller jusqu'au bout de cette procédure. Comme tu l'as dit, Philippe, ceux à qui c'est arrivé à la suite de l'évacuation du squat de la rue Descartes, on ne les voit plus, ils se cachent, et il y a de fortes chances pour que leur demande n'aboutisse pas. On ne peut pas non plus le faire. Ça, c'est un témoignage que nous avons recueilli à Calais jeudi, quand, par exemple, à la suite d'une garde à vue, on ne vous rend même pas les quelques documents que vous pouviez avoir avec vous. Alors, le dispositif Dublin 2, Lily y a également fait allusion, lui aussi, il restreint considérablement le droit d'asile et l'accès au droit d'asile. Que l'Union européenne se préoccupe de déterminer quel est l'État membre qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile, ça peut se comprendre, mais évidemment, la réponse fournie par le règlement Dublin 2 n'est ni adéquate ni juste, puisque d'abord, elle débouche trop souvent sur des transferts qui sont coûteux. On pourrait évaluer aussi, regarder aussi toutes ces politiques à l'aune des coûts. L'un d'entre nous disait combien coûte l'hébergement des CRS à Calais par rapport au non-hébergement des exilés et des demandeurs d'asile. Elle n'est pas juste non plus pour les États, puisqu'elle contraint ou elle est censé contraindre des États comme la Grèce à prendre en charge des demandes qu'ils n'ont ni les moyens, ni peut-être la volonté politique d'examiner efficacement. D'ailleurs, on sait que la Cour européenne des droits de l'homme a censuré plusieurs fois des décisions de renvoi vers la Grèce. D'un point de vue local, elle est également dissuasive de manière, je dirais, mécanique de la demande d'asile, puisque de nombreuses personnes qui seraient en droit de le demander, l'asile, hésitent ou renoncent de peur de se voir justement renvoyées vers des pays comme l'Italie ou la Grèce, où elles savent qu'elles n'obtiendront pas une protection adéquate. Alors j'avais prévu aussi de parler de la directive retour et de la confronter avec ce qu'on sait des centres de rétention, des conditions de rétention en France, du décret d'application de la loi dite loi Besson qui est parue hier et qui est particulièrement vicieux comme on peut s'en douter. Mais je pense que sur les centres fermés en Belgique, ça a été excellemment rapporté il y a un instant. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je voudrais simplement citer, d'abord poser une question peut-être, d'abord faire une citation et ensuite poser une question. Dans l'excellent article que la correspondante nordiste du Monde a publié hier sur le Jungle Tour, elle rapportait... Libération. Elle rapportait un propos du préfet du Pas-de-Calais qui avait déclaré « Mon objectif n'est pas de rendre la vie des migrants agréable ». Moi, je considère que cette phrase, elle est non seulement cynique et provocatrice, elle est provocatrice puisque, d'après Libération, c'était un propos adressé à un représentant de Médecins du Monde. Je considère aussi qu'elle est indigne d'un haut fonctionnaire qui est censé agir et parler au nom de l'ensemble du peuple français qu'il est censé servir. La question, peut-être pour ouvrir un débat, mais on n'a peut-être plus vraiment le temps, on n'a pas le temps, c'était sur la réforme du paquet asile, les discussions sur Schengen qui ont été évoquées tout à l'heure, et savoir au fond quel type d'évaluation pouvait être faite à trois niveaux, évaluation des politiques européennes globales, des politiques individuelles de chaque État membre, et aussi évaluation des situations particulières dans des lieux comme Calais, mais dans des lieux en Grèce aussi. Philippe aurait pu en parler puisqu'il était allé... Il est allé voir ça de plus près il y a quelques mois, de situations très précises. Comment est-ce que ça intervient? Quel type d'évaluation est faite? Est-ce qu'elle est démocratique? Est-ce qu'elle est démocratiquement contrôlée par le Parlement européen? Est-ce que ce sont les États qui font leur cuisine entre eux? Je crois que c'est ça le cas. Et évaluation des situations de terrain telles qu'on a essayé de vous en parler aujourd'hui.
Merci beaucoup. Bon, je suis un peu désolée là parce qu'on arrive au terme de la réunion. Donc d'abord, je libère l'interprète. Ça l'est déjà fait. Voilà, je vous en prie. Hein. Ok, 5 minutes. Très bien. Merci beaucoup. Donc, vous avez moi, je tiens vraiment à vous remercier très chaleureusement, non seulement pour avoir pris cette initiative, non seulement pour vos témoignages, mais aussi vos analyses et vos propositions. Je crois que vraiment ce dont vous êtes porteur est absolument d'une très grande importance pour les débats qui se tiennent ici, notamment dans la commission Libé où nous siégeons. Non, les parlementaires ne sont pas dessaisis de toute capacité d'évaluation ni de décision en ces matières, mais comme je le rappelais en introduction, elles sont toutes en codécision. Et il faut savoir aussi que, y compris au sein du Parlement européen, même si les débats y sont plus libres et plus ouverts et a priori plus sensibles à la question du respect des droits fondamentaux des personnes, il y a aussi une majorité très droitière et conservatrice qui appuie sans trop de problèmes de conscience les politiques des États les plus répressifs qu'on voit à l'œuvre. Ce n'est pas la peine de donner des exemples. Vous avez adressé plusieurs types de problèmes très importants. Il y a la question des violences policières. Alors moi, je crois que la question, le dossier qui a été mis sur la table de Baudis dès son arrivée comme défenseur des droits de l'homme est absolument excellent. Je veux dire vraiment félicitations, un, pour avoir monté le dossier. Donc nos borders, je ne sais pas s'ils sont là, mais ils ont documenté vraiment cette situation. Ça a été porté par beaucoup d'associations. Moi, je considère que, effectivement, ça pose un problème décisif dans la configuration de l'indépendance et du crédit de ce nouvel organe défenseur des droits de l'homme. Comme tu le rappelais, Alain, j'ai écrit effectivement au préfet parce qu'on a quand même le sentiment que le dépôt de ce dossier a été suivi de représailles. Représailles à répétition, puisque quasiment depuis le dépôt de cette plainte, il y a dans le Calaisis une succession d'entreprises d'expulsion systématique, de harcèlement systématique, de chasse, hein, de traque, en tout cas, aux migrants. Ces violences policières, elles relèvent d'aucune directive, mais il y a quand même des standards européens sur le respect de la dignité des personnes, sur l'interdiction de tout traitement inhumain et dégradant. Il est clair que tous les traitements dont vous nous parlez, la destruction des affaires personnelles, l'utilisation de gaz lacrymogène, les insultes, les réveils en pleine nuit, qui manifestement ne sont pas seulement franco-français, puisque les associations belges sont porteuses des mêmes atteintes aux droits des personnes, relèvent clairement de la Cour et de justice et de la Cour européenne et pourraient être adressées à ce niveau-là. Après, il y a la question des demandeurs d'asile. Ben, moi, je pense que, effectivement, ces directives, ce paquet asile, donc procédure, qualification, normes minimales d'accueil, plus Dublin, a été évalué, y compris dans ses insuffisances. Il a donné lieu à un nouveau paquet de propositions qui sont plus ou moins avancées. On va voter demain sur la directive procédure, par exemple, qui a plutôt. Sur la directive qualification. Mais d'autres sont, et on va discuter une nouvelle proposition sur les normes minimales d'accueil. Néanmoins, les dispositions plus accueillantes, comme celles que tu citais, sont pas mises en œuvre. Alors ça, ce sont des choses qu'on peut adresser à la Commission européenne, Marie-Christine et moi, pouvant donner lieu à des procédures type procédure en infraction, comme on a pu en déclencher une sur les Roms. Donc ça, moi, je pense que nous pourrions, on peut le faire ensemble, trouver d'autres collègues. Nathalie Grisbeck pourrait être tout à fait d'accord également pour faire ça, adresser une question à la Commission européenne pour manquement dans la mise en œuvre de la directive normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile en Europe. C'est tout à fait envisageable. Sur Dublin, moi, tout simplement, je crois que Dublin devrait être aboli parce qu'il contredit un autre enjeu fondamental qui est l'intégration des demandeurs d'asile. Moi, je pense que les demandeurs d'asile doivent pouvoir choisir au sein de l'Europe les pays dans lesquels ils ont des amis, dont ils partagent la langue, dont ils ont à voir avec éventuellement l'histoire plus ou moins mouvementée avec leur propre pays d'origine, et faire en sorte qu'on optimise les conditions du nouveau départ dans la vie des demandeurs d'asile en leur permettant de choisir et surtout en leur permettant ensuite de circuler librement au sein de l'Union européenne avec ce statut de protection. Donc une des mesures, si d'autres autorités gouvernementales pouvaient advenir dans certains pays, je pense évidemment à la France parce que ça, c'est une échéance qui se rapproche, il y a des choses simples dans l'attente d'une abolition de Dublin ou en tout cas d'une profonde refonte de Dublin. C'est par exemple la décision, et ça c'est tout à fait possible, rien ne l'interdit, de la suspension de la mise en œuvre des accords Dublin à l'échelle de la France. D'ailleurs, ça ne ferait que suspendre un véritable cirque, puisque aujourd'hui, tout compte fait, c'est-à-dire demande faite de réadmission à la France et demande faite à la France de réadmettre, compte tenu des réponses positives qui sont faites par les États demandeurs ou récepteurs, et compte tenu des soldes dans les deux sens, ça doit concerner in fine pas plus de 300 personnes, tout ça pour un cirque considérable qui dépense une énergie et surtout qui porte atteinte énormément, comme ça a été rappelé par vous, aux droits des personnes et surtout à leur capacité effective d'obtenir une protection internationale. Donc je crois que ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans l'agenda des premières mesures à prendre en cas de nouveauté au niveau des autorités françaises, par exemple, et j'espère qu'il y en aura d'autres dans la foulée. Voilà. Après, sur le suivi médical, on est là aussi, suivi médical et situation sanitaire, accès aux soins, on est aussi là dans les droits fondamentaux des personnes. Et donc, quel que soit le statut de ces personnes, du point de vue administratif, il est bien évident que ce droit fondamental peut aussi être adressé par des procédures juridiques adéquates Ceci dit, évidemment, c'est assez facile de le signifier comme ça, mais toute procédure demande effectivement dossier, avocat, suivi, patience, plaidoyer, procédure pour éventuellement arriver jusqu'à la Cour européenne de Strasbourg, ce qui n'est pas évidemment une mince affaire. Puis après, il y a la question que vous avez adressée qui concerne l'accueil de toutes les personnes en situation de précarité. Alors, il est évident que tous les systèmes d'accueil ou d'accueil des personnes en situation de grande précarité ou de misère, eh bien, sont déjà en eux-mêmes soumis à des coupes sombres et à des pressions extrêmement importantes liées à la crise et accueillent aussi ces personnes migrantes. Et donc, il y a une espèce de pression considérable sur le système que vient en plus accroître les coupes budgétaires. Sur cela, je crois qu'une grande partie des questions peut être résolue de la manière mais la plus évidente et simple qui soit, c'est-à-dire permettre à ces personnes de séjourner régulièrement avec une capacité de travailler, ce qui est la solution évidemment principale, le levier le plus simple, le moins onéreux, le plus bénéfique pour tous. Et on se demande d'ailleurs comment cette réponse évidente, simple et bénéfique pour tous ne vient pas à l'esprit de tous ceux qui parlent de ces sujets, puisque franchement, c'est comme le nez au milieu de la figure. Alors, si on nous dit que c'est l'épouvantail de la régularisation de tout, c'est l'appel d'air pour toute la misère du monde, moi, je pense que on peut avoir une approche tout à fait convaincante et déterminée à la fois, qui dit par exemple que pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être envoyées dans leur pays d'origine, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens, il est évident que le no man's land juridique et l'espèce d'errance entre ici et là est absurde et que ces personnes doivent obtenir le plus rapidement ces papiers. Et puis, c'est non seulement des papiers, mais je veux dire un droit de séjour conséquent, qui ne soit pas une espèce d'onction donnée tous les six mois ou tous les ans. Et puis également le droit de travailler. Et puis ça, pour ceux qui travaillent, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui, de fait, travaillent. Alors, ils travaillent de manière régulière ou pas régulière, mais enfin, toutes ces personnes doivent accéder rapidement. C'est évidemment la solution, je dis bénéfique humainement, politiquement, mais aussi en espèces sonnantes et trébuchantes. Quelqu'un parlait du coût. Il faut rappeler que même le Sénat a évalué le coût d'une expulsion à plus de 20 000 euros et la Cour des comptes avait évalué le coût d'une expulsion à 22 000 euros, compte non tenu du salaire des fonctionnaires. Donc, c'est-à-dire que c'est évidemment prohibitif. Cette politique de répression systématique et d'enfermement est prohibitive. Et d'ailleurs, le Parlement européen avait fait faire une enquête, une étude sur le coût. Parce que l'argument massif utilisé par les ministres au Conseil, c'est de dire que l'amélioration de l'accès aux droits des personnes demandeuses d'asile est un coût prohibitif. Or, il s'avère que cette étude qui a été commanditée par le Parlement européen démontre par A plus B que là où ça coûte cher, c'est là où on enferme beaucoup les demandeurs d'asile. Et que plus la procédure est respectueuse des droits des personnes, moins elle est onéreuse. Et donc voilà, les chiffres on les a, l'étude on l'a. Donc tout ça est une vaste fumisterie, un vaste écran de fumée qui essaye de draguer une opinion publique censée être un peu gogo sur le sujet et dont on voudrait flatter les instincts. Je sais pas, racistes ou xénophobes, quoi. Voilà. Bon, donc, alors maintenant, je voudrais vous dire plusieurs choses. C'est qu'ici, on n'est pas nombreux comme parlementaires, mais que moi, je m'engage à ce qu'il y ait enfin, vous aussi, je sais bien, vous allez faire un compte-rendu de cette affaire. Ce que nous pourrions faire, c'est traduire ce compte-rendu en anglais pour qu'il soit disponible pour nos collègues. Et puis, peut-être pourrions-nous avoir au sein de ce Parlement quelques collègues qui pourraient vous aider, puisque c'est la deuxième édition, je crois, du Jungle Tour, qui pourraient vous aider à densifier encore votre réseau. Parce que moi, je trouve que c'est extrêmement fructueux. Ce que vous venez de démontrer là, c'est-à-dire vos regards croisés à partir de vos expériences sur le terrain, les questions que vous posez et la façon dont ça fait écho entre les différents lieux que vous avez visités. trouve que c'est très puissant, c'est très intéressant. Et donc, peut-être, on pourrait, sur la base d'une valorisation de ce deuxième Jungle Tour, qu'on pourrait valoriser donc par une traduction en anglais, essayer d'aller chercher des soutiens parlementaires pour vous aider l'année prochaine à faire une super Jungle Tour en allant peut-être dans d'autres contrées encore de l'Europe. Ça pourrait...
J'y pensais effectivement parce que moi je suis élue du Sud-Est, hein, donc plutôt au cœur de la polémique sur les Tunisiens en ce moment. Et je pense qu'il y a intérêt effectivement à mettre tout ça ensemble. Puis bon, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'Hélène vient de dire. Il y a une chose, je voudrais mettre peut-être une petite note d'optimisme par rapport à la majorité que nous subissons dans ce Parlement. Je pense qu'il est très important qu'on travaille ensemble, parce que quelquefois sur ces sujets-là, les majorités sont très bord à bord, si je puis dire, et que la pression, notamment sur un certain nombre de groupes, avec un certain nombre de réseaux, sur ces questions de droits élémentaires, peut faire changer les quelques voix qui nous manquent. Donc je pense que l'approche par les droits est très, très importante, les droits basiques. C'est vous, madame, qui parlez du bébé dans la rue à l'âge de 6 mois. Je pense que ces témoignages-là... Qu'est-ce que j'ai dit ? 6 mois. Ouais, non, mais j'avais dans la tête 6 jours. Ces témoignages-là, c'est important de les mettre en avant pour coincer un certain nombre de gens sur leurs convictions primaires, quoi, si je puis dire. Parce que c'est bien de faire des discours sur les droits de l'homme et la démocratie. C'est encore mieux quand on fait en sorte de voter des lois qui sont conformes à ces idéaux. Et là, il y a de l'aberration. Moi, je suis pour aussi qu'on dise au maximum la vérité. Hein, on est un peu frileux sur ces questions-là. Et finalement, les discours sur l'invasion passent tout seuls parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on a peur de dire. Moi, je crois qu'il faut dire la vérité sur... sur les chiffres, hein, on a beaucoup travaillé ensemble avec Hélène sur la question Tunisie. C'est quand même un vrai scandale qu'on nous bassine avec les 23 000 Tunisiens qui ont envahi l'Europe, alors que pendant ce temps, il y a 900 000 à 1 million de personnes qui ont fui la Libye, dont 500 000 qui ont été accueillis en Tunisie, petit pays de 10 millions d'habitants en pleine révolution. On marche sur la tête, quoi. Donc, tous ces chiffres-là, y compris les coûts, là, il faut les balancer. Et je crois que c'est en faisant pression sur l'opinion publique que vous y arrivez. Et ce que vous dites de la façon dont vous avez été accueillis, moi, me donne un petit peu d'optimisme. Et je pense que Hélène a raison de vouloir élargir, faire travailler ensemble plus de monde, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et il faut qu'on y arrive.
Voilà, merci Marie-Christine, ben, merci à vous. Donc un envoi de vos travaux et de votre visite à un maximum de collègues pour qu'ils soient d'ici 6 mois, quand vous allez commencer à monter la prochaine édition, éventuellement, ou 9 mois, pour qu'ils soient déjà sensibilisés et qu'on puisse trouver des soutiens qui vous permettent d'amplifier cette initiative. Est-ce qu'on peut solliciter de votre part une photo ? Moi, j'aimerais bien, parce que je suis assez fière de vous avoir rencontré ici, pouvoir mettre ça sur mon blog et donc vous avoir en photo.
Bon, on vous remercie encore de votre écoute la possibilité plutôt optimiste de poursuivre notre lutte. Et je voudrais aussi remercier les autres représentants d'associations auxquelles on n'a pas eu le temps de donner la parole et excuser la Ligue des droits de l'homme de Belgique francophone, dont la représentante qui devait être parmi nous est malade.